Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 13h, ce journal vous est présenté par Simon Loire.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, Didier Reynders inculpé pour blanchiment, c'est ce qui a révélé le journal Le Soir et ses partenaires hier. Joël Matriche, un journaliste de l'enquête, sera notre invité. On vous en a parlé hier, mais aujourd'hui c'est officiel, Zoran Mamdani est élu maire de New York, décryptage de cette élection dans ce journal. Le 10e Festival international du film de comédie de Liège débute aujourd'hui. Adrien François, directeur général du festival, revient sur la raison de son succès. Une révélation du journal Le Soir hier. Après une seconde audition, Didier Reynders est inculpé pour blanchiment. Une information que le parquet général de Bruxelles n'a pas souhaité confirmer. Les explications de l'ancien ministre et commissaire européen n'auraient donc pas convaincu le magistrat instructeur. Pour rappel, Didier Reynders a déposé sur son compte en banque 700 000 euros en liquide de 2008 à 2018, éveillant les soupçons de sa banque. Il s'est ensuite mis à jouer au jeu de hasard, beaucoup, trop visiblement, puisque là aussi il s'est fait remarquer. Il a dépensé pour 200 000 euros de tickets électroniques. Joël Matriche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des journalistes au journal Le Soir en charge de l'enquête. Quels sont les éléments à charge à l'encontre de Didier Reynders ?
Donc à charge, donc pour le moment, ce ne sont que des présomptions. Mais comme vous le dites, il s'agit de blanchiment d'argent, suspicion de blanchiment d'argent, parce que la question fondamentale qu'il se pose, c'est il a acheté pour 900 000 euros, enfin, il a dépensé pour 900 000 euros, 200 000 de tickets de loterie et 700 000 euros de dépôt à la banque, en argent cash. Il a été commissaire européen, il a été ministre, président de parti, ce ne sont pas des métiers où on est payé en billets de 500. Et donc la question fondamentale, c'est d'où vient cet argent liquide ? D'où la présomption et l'inculpation pour blanchiment. Une inculpation qui a pour avantage de tenir toute seule les taux autoportantes en quelque sorte. Ça veut dire que c'est à la personne qui a dépensé cet argent cash de démontrer qu'il a été acquis légalement, licitement.
Ok, merci beaucoup. Et une inculpation, qu'est-ce que ça implique concrètement en fait à ce stade ?
Une inculpation, donc c'est une étape de plus dans la gestion du dossier par le magistrat instructeur, donc un conseil de la cour d'appel, en l'occurrence qui joue le rôle de juge d'instruction. Ça signifie qu'il y a des présomptions de culpabilité assez fortes aux yeux du juge d'instruction que pour motiver une inculpation. Donc c'est quand même un acte assez fort, qui ne signifie pas évidemment que M. Reynders est coupable. Il y a encore plusieurs filtres qui vont jouer d'ici là. En contrepartie, ça lui ouvre un droit fondamental qui est de demander, pas nécessairement d'obtenir, c'est à la discrétion du magistrat, mais de demander l'accès au dossier. Et donc, il pourra voir où en est en gros l'état d'avancement de l'enquête, quels sont les témoins, etc.
Un épisode en plus dans cette saga, donc. Merci, M. Matriche, pour ces précisions.
Merci.
Un survol de drone signalé hier soir a interrompu le trafic aérien aux aéroports de Liège et Bruxelles. C'est la troisième fois en une semaine qu'un tel phénomène se produit. Au total, une quarantaine de vols annulés hier soir. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'aéroport de Zaventem ce matin. Et la cascade de retards et annulations se prolonge aujourd'hui. Il est recommandé aux voyageurs de se renseigner sur leur vol. L'aéroport de Charleroi ne devrait, lui, rencontrer aucun problème. Avant-dernière journée de discussion pour le gouvernement Arizona concernant le budget fédéral, si un accord n'est pas trouvé, est-ce que le gouvernement tombera ? Le premier ministre, Bart De Wever, menace de se rendre chez le roi. Si le Parlement vote à la majorité, les élections anticipées pourraient être envisagées, et ce, indépendamment de la présence d'un formateur. Cela signifie un manque d'accord entre les partis, mais est-ce possible de travailler avec la NVA ? Pierre Baudouins, professeur de sciences politiques à l'UC Louvain.
Quand on dit que c'est impossible de gouverner avec la NVA, la question c'est de savoir, ok, est-ce que c'est sur les enjeux et leur positionnement sur certains enjeux ? Est-ce que c'est plutôt idéologique ou bien est-ce que c'est plutôt un problème de personne, comme on dit, ou est-ce que c'est plutôt en fait les relations entre les élites politiques ou elles-mêmes qui font qu'ils ne se font pas confiance et ainsi de suite.
Est-ce qu'on voit avec ce gouvernement les limites du compromis à la Belge ?
Je pense qu'il y a quand même un certain compromis, mais qui effectivement est mis à mal par toute une série de facteurs environnants, qui sont liés aux difficultés budgétaires, qui sont liés au manque de concertation parfois. C'est lié aussi probablement à une génération politique beaucoup plus jeune dans le sens où en fait ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement été accoutumées à la culture du compromis et qui donc font en fait avoir des positions très fortes et essayer de pousser la négociation jusqu'au bout.
Une interview de Sacha Baquès. 8 000 Liégeois risquent de perdre leurs droits aux allocations de chômage, avec une dégradation possible de leur situation sociale. Certains Liégeois pousseront donc la porte du CPAS. C'est pourquoi un nouveau centre d'accueil va ouvrir rue Monulf. Jean-Paul Bonjean, le président du CPAS de Liège, évoque les conséquences de cette décision gouvernementale au micro de Sacha Baquès.
Suite à la décision du gouvernement, le CPAS de Liège craint des conséquences préoccupantes. Aggravation de la précarité, augmentation des troubles de la santé mentale et des violences intrafamiliales, ainsi qu'un engorgement des services sociaux.
On a été bien obligé d'ouvrir un nouveau bâtiment pour accueillir de manière digne et qualitative le nouveau public des exclus du chômage, qui sont un public nouveau.
Qui dit nouveau centre, dit plus de personnel.
On renforcera le personnel à concurrence du nombre de nouveaux dossiers à traiter, c'est-à-dire une centaine par assistant social. Je ne veux pas que les nouveaux dossiers qui vont arriver viennent impacter la charge de travail déjà très lourde du personnel en place.
À noter que ce point d'accueil ouvrira à partir du mois de janvier 2026 et restera ouvert pendant un an.
De quoi renforcer donc l'accueil des exclus du chômage. On vous le présentait hier comme un outsider, aujourd'hui il devient plus que ça, Zoran Mamdani est le nouveau visage de la ville de New York. Il a été élu maire ce mardi avec plus de 50% des voix. 2 millions d'électeurs se sont manifestés, plus du double des élections précédentes, ce qui prouve la popularité de ce jeune et énergique candidat démocrate. Son parti remporte également les postes de gouverneur de Virginie et de New Jersey. Ses scores sont particulièrement scrutés puisqu'ils servent de baromètre aux élections de mi-mandat, vitales pour assurer la position dominante des républicains au Sénat. Elles auront lieu dans un an. Cette victoire est aussi un sacré pied de nez à Donald Trump, le président républicain qui qualifiait le futur maire new-yorkais de, je cite, « petit communiste » il y a encore quelques jours. Zoran Mamdani prendra ses fonctions le 1er janvier prochain et deviendra officiellement le premier maire musulman de l'histoire des États-Unis. Toujours en Amérique, on apprenait hier soir le décès de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush. Il a occupé le poste de numéro 2 du président républicain de 2001 à 2009. Homme de l'ombre, mais homme puissant, il s'était forgé une solide réputation. C'était le conseiller le plus influent à la Maison-Blanche dans une époque marquée par le terrorisme, la guerre et les changements économiques. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des vice-présidents les plus influents de l'histoire américaine. Il avait fait sensation l'année passée en annonçant qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris. Pourtant républicain, il jugeait inapte Donald Trump à occuper le bureau ovale. Et tout de suite, les sports. Bonjour Amélie Huppert.
Bonjour Simon Loire. Donc hier soir en football, c'était la quatrième journée de Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 3-1 face à l'Atlético Madrid. Toujours hier soir, le Bayern de Munich a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Et enfin, malgré un Thibaut Courtois exceptionnel, le Real Madrid a encaissé 1 à Anfield. Liverpool l'a donc emporté 1-0.
Et une autre équipe belge fera son entrée sur le tournoi ce soir.
Oui, c'est le club de Bruges. Il affrontera Barcelone à 21h. Il est actuellement 24e au classement avec 3 points. D'autres matchs seront aussi à retrouver, notamment Manchester City qui rencontrera Dortmund et Leverkusen qui se déplacera à Benfica.
En tennis, Alexander Blocks a disputé le premier tour de l'Open de Moselle hier.
Et d'ailleurs, il l'a remporté. Au niveau des scores, on peut citer 6-3, 3-6, 4-6 face à l'Italien Francesco Passaro. Il affrontera le Français Clément Tabur cet après-midi.
Il y a aussi du nouveau en WEC, championnat du monde d'endurance.
Le flamand Stoffel Van Doorn prolonge finalement son contrat chez Peugeot. On le retrouvera donc l'année prochaine en WEC.
En cyclisme sur piste, c'est Lotte Kopecky qui fera son retour à la compétition.
C'est ça. En fait, elle s'est fracturée une vertèbre récemment. Et donc, elle avait annoncé qu'elle ne reviendrait pas à la compétition cette saison. Mais finalement, on la retrouvera aux 6 jours de Gand qui auront lieu du 13 au 23 novembre. Du 18 au 23 novembre, pardon.
Ce mercredi 5 novembre signe le départ de la 10e édition du Festival international du film de comédie de Liège. À l'occasion, de grandes stars comme Jean Reno ou encore Muriel Robin seront présents. Yoline Olivier s'est entretenue avec Adrien François, le directeur général du festival.
Depuis son inauguration en 2016, le Festival international du film de comédie de Liège n'a cessé de grandir. Et pour Adrien François, le succès de sa pérennité est dû à la comédie, mais aussi à la ville de Liège.
J'aime souvent dire qu'on soit enfant, adolescent, adulte ou senior, bah, qui n'aime pas rire, qui n'aime pas avoir un vrai fou rire. Et puis c'est Liège, c'est la ville. Je veux dire, si on faisait ce festival dans une autre ville que Liège, je ne pense pas que ça fonctionnerait pareil. Parce que Liège, les gens sont festifs, sont inventifs, il y a une effervescence. Je trouve que le festival de comédie se marie bien avec la ville de Liège.
Ce festival a pour but de se démarquer des autres, car il existe peu de festivals de comédie dans le monde.
Bon, il y a l'Alpe d'Huez en France, mais on s'est dit, mais pourquoi pas créer un festival de comédie puisqu'il n'y en a pas. Donc du coup, on se démarquait automatiquement de tout ce qui existait déjà et on prenait une place qu'il fallait prendre. Le but, c'est d'être complémentaire et je pense qu'avec le festival de comédie, on est complémentaire avec tout ce qui existe déjà en Belgique.
En 10 ans, les organisateurs ont travaillé et évolué petit à petit pour donner vie à un festival reconnu à l'international.
Le festival a pris de l'ampleur, édition après édition, et quand on voit évidemment la qualité des invités, la qualité des films qu'on a eu en 10 ans, c'est évidemment fantastique pour Liège, pour le cinéma, pour la comédie, et moi c'est mon combat du quotidien, c'est de faire grandir ce festival le plus loin possible.
Un festival où le public répond présent chaque année.
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, même heure sur 48 FM.